Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête dans les coulisses de la fraude fiscale. Comment fonctionnent de l'intérieur ces sociétés spécialisées dans les montages offshore? Qui sont ces fraudeurs qui prennent tous les risques pour échapper au radar du fisc? On va voir ça avec vous, Abdelhak El Idrissi. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Lionel Astruc. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez un livre sur le charity business du père de Microsoft, Bill Gates. Une enquête sur la face cachée de sa fondation.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colomba.
Bonjour. Panama Papers, boîte noire des paradis fiscaux, caverne d'Ali Baba de l'évasion fiscale, chef d'État sportif, milliardaire.
Panama Papers, scandale fiscal planétaire, des milliards dissimulés grâce à des avocats panaméens, des personnalités.
Le Panama au cœur du soupçon.
Voilà, c'était il y a presque 3 ans, le scandale des Panama Papers, l'évasion fiscale à l'échelle mondiale révélée par le consortium international des journalistes d'investigation grâce à une gigantesque fuite de données d'un cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca. Depuis, eh bien, la lutte contre les inégalités fiscales n'a pas quitté le devant de la scène. Elle est même au cœur des revendications des Gilets jaunes et du grand débat. Alors, à Secret d'Info, nous avons voulu nous replonger dans ces millions de données des Panama Papers, car elles recèlent encore beaucoup de surprises. C'est vous, Abdelhak El Idrissi, qui avez replongé dans toutes ces données pour la cellule investigation de Radio France. Et ce que vous avez découvert, c'est que derrière les têtes d'affiche de la fraude fiscale, dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien, il y a d'autres profils qui sont très différents.
Oui, et ce qui frappe en fait en analysant toutes ces données, c'est que la fraude fiscale, finalement, elle n'est pas réservée à une élite. Il y a des auto-entrepreneurs, des consultants, des ingénieurs, des radiologues. J'ai même été étonné de tomber sur une tenancière de bar. À chaque fois, pour ces fraudeurs, le principe est le suivant: utiliser des sociétés offshore pour ne pas avoir à payer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui vient d'être supprimé.
Et pour organiser cette grande évasion, Abdelhak, il y a des intermédiaires spécialisés.
Oui, et parmi toutes ces sociétés, il y a un cas emblématique, c'est celui de la société France Offshore. Incontournable, y compris sur Internet. Écoutez.
Bienvenue chez France Offshore, leader français et mondial en création de sociétés offshore et internationales. Nous créons bien entendu des sociétés sur toutes les places offshore traditionnelles, notamment les très connues Seychelles, Belize, Panama, mais également les BVI, îles Vierges britanniques.
Bienvenue donc dans le monde de l'offshore et des îles Vierges britanniques. Ça, c'est la plaquette publicitaire, mais cette société France Offshore, qui l'a créée?
Un homme, Nadav Bensoussan, ce Strasbourgeois sans aucun diplôme, décide de se lancer dans l'offshore en 2006. Il n'a alors que 28 ans, mais déjà pas mal d'assurance. Il est même régulièrement interviewé sur les sujets fiscaux dans la presse. Écoutez-le par exemple dans ce documentaire diffusé en 2011 sur France 5. Nadav Bensoussan est en déplacement en Lettonie, un pays où il fait beaucoup d'affaires.
Oui, ici on est dans nos bureaux à Riga. Donc on est en Lettonie, on a une vingtaine de personnes qui travaillent. C'est en fait finalement le bureau qui fait toute la partie administrative, c'est-à-dire toute la partie suite à la vente.
Dans ces bureaux, on s'occupe de toutes les transactions, du clé en main.
Bonjour Irina, ça va bien? Ça va, ça va.
Okay. C'est des dossiers d'investisseurs français, ça?
Tout à fait. Donc ça, ce sont des dossiers récents, en fait, de constitution de... Enfin, toutes sortes d'applications, sociétés, etc.
Des gens qui ne veulent plus payer d'impôts en France?
Des gens qui veulent payer des impôts, moins et ailleurs.
Des gens qui veulent payer moins d'impôts ailleurs, explique le patron de cette société France Offshore. Donc là, il est face caméra, on imagine qu'il parle de prestations légales.
Forcément, officiellement, ce que propose France Offshore, c'est de l'optimisation. Sauf qu'en 2011, la justice est saisie d'une plainte de l'administration fiscale. Une enquête est ouverte et nous avons pu avoir accès à toutes les pièces du dossier. Ce qui permet de comprendre pour la première fois le fonctionnement très précis de cette société. À l'origine de cette affaire, il y a donc un soupçon qui est en fait un grand classique de la fraude fiscale, comme l'explique le vice-procureur au parquet national financier, Emmanuel Chira.
Très souvent, les facilitateurs de ce genre de service-là ont tendance à prendre une couverture d'apparence légale. On va pas parler de fraude à l'impôt, on va parler de minimisation de la fiscalisation des entreprises. On ne dira pas « venez ouvrir un compte caché », mais nous vous mettons à disposition une carte bancaire anonyme. Des mots simples qui parlent à tout le monde, qui vont allumer des lumières, si j'ose dire, dans les cerveaux de ceux qui sont sensibles à échapper l'impôt, le contourner, ne pas le payer et se mettre en infraction avec la loi pénale et la loi fiscale.
Oui, donc des facilitateurs de fraude fiscale qui cachent bien leur jeu, dit ce magistrat financier. Et dans le cas de France Offshore, alors, la justice a des soupçons et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, les magistrats mettent sur écoute le standard téléphonique de France Offshore et là, ils font de sacrées découvertes. Écoutez cette conversation entre un employé de France Offshore et son patron, Nadav Bensoussan.
Tu veux que je te dise qui j'ai reçu, là?
Qui ça?
J'ai reçu deux personnes. Tu sais ce qu'ils font? Ils ont une baraque à frites.
Baraque à frites?
Ouais, une baraque à frites. Les mecs, ils font que du cash, uniquement du cash. Alors, ils veulent trouver une solution parce qu'ils ne veulent plus se balader avec leur cash. Ils font 15 000 euros par mois, hein. Donc, voilà la solution que je leur ai proposée. Deux sociétés aux îles Vierges britanniques. Je leur ai fait un devis. Ils reviennent vendredi matin. Et je leur ai donné 4 boîtes de briquets chacun pour mettre sur la baraque à frites.
Ah ouais, t'as des mecs qui sont à fond, là.
Je leur ai dit, pour le système du cash, hein, ils veulent venir une fois par mois déposer le cash. Je leur ai dit, c'est 5% de commission.
Oui, oui, on va leur trouver une solution.
Voilà, et après, lorsque je leur ai donné la brochure, le financement, ils étaient comme des malades, les mecs. C'est devenu mes potes, les mecs.
Assez stupéfiant, hein, cette conversation de l'évasion fiscale pour une baraque à frites, c'est plutôt inattendu. Bon, mais concrètement, Abdella, que proposent des sociétés comme France Offshore à ses clients pour échapper au radar du fisc français?
Eh bien, elles proposent d'abord de créer une société dans un paradis fiscal pour protéger l'identité du client fraudeur. Et pour ça, il y a une astuce, mettre en place un prête-nom. En anglais, on appelle ça un nominee.
Oui, donc si je comprends bien, quelqu'un qui prend officiellement la place du client fraudeur.
C'est ça, et ce mécano, il n'est pas toujours immédiatement bien compris des clients de France Offshore. Écoutez par exemple, ce client à qui on propose de créer une société à Hong Kong, il n'est pas vraiment rassuré. Une conversation reconstituée par des journalistes.
À Hong Kong, on est tranquille? Mon nom ne figure pas?
Non.
Ok, mais si nos noms ne figurent pas, il y a bien un nom qui figure?
Oui, c'est un nominee, un prête-nom.
C'est qui?
C'est la personne avec qui on travaille.
Mais ces gens-là, ils peuvent pas partir avec la caisse?
Mais non, c'est notre job, ça. On crée des sociétés avec des prête-noms. En France, un prête-nom, ce n'est pas légal. À l'étranger, c'est un métier. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui sont rémunérés pour ça. Ces prête-noms, ils n'ont pas intérêt à avoir un lien avec la société, d'accord? Eux, ça ne les regarde pas. Leur job, c'est simplement d'apparaître dessus.
Voilà donc un prête-nom qui apparaît un peu comme une étiquette sur la vitrine d'une société offshore. Mais ce système d'évasion fiscale, il ne s'arrête pas là. Hein.
Oui, parce que pour le fraudeur, disposer d'une société offshore, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut encore un compte bancaire pour recevoir l'argent de la fraude, un compte forcément caché.
Comme dans l'affaire Cahuzac.
Oui, et pour ça, il faut donc des banques qui acceptent d'ouvrir des comptes pour les sociétés offshore de clients français. Dans le cas de l'affaire France Offshore, le patron, Nadav Bensoussan, avait une relation privilégiée avec une banque lettonne, la Rietumu.
Et cette banque, c'est pas n'importe quelle banque.
Effectivement, c'est le cinquième établissement bancaire en Lettonie en termes d'actifs, avec plus de 500 salariés. La banque a même ouvert officiellement un bureau de représentation en France en 2009.
Bon alors, si je résume, dans cette affaire, on parle donc de clients français cachés derrière des sociétés à Hong Kong ou dans d'autres paradis fiscaux, des clients qui disposent également d'un compte bancaire non déclaré en Lettonie. Là, on se dit que les clients de France Offshore savaient forcément que c'était pour de la fraude fiscale.
Dans la majorité des cas, oui, évidemment. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les clients. Prenons l'exemple de Céline, qui a accepté de me parler en conservant l'anonymat. En 2008, elle finit ses études d'ingénieur dans le nord de la France et elle se lance alors dans le conseil aux entreprises. Elle contacte France Offshore pour savoir s'il est possible de payer moins d'impôts pour ses prestations à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on lui ouvre une société aux îles Vierges britanniques, avec un compte bancaire ouvert à la Rietumu.
Oui, la fameuse banque lettonne dont on vient de parler là.
Oui, sauf que dans le cas de Céline, le fisc a mis son nez dans le montage, qui est forcément illégal. Alors ça paraît évident, mais la jeune fille à l'époque n'en a absolument pas conscience. Elle dit avoir suivi les conseils qu'on lui a donnés, et aujourd'hui, elle n'en revient pas d'avoir été si naïve. Elle a accepté de nous parler, à condition de rester dans l'ombre. Nous avons fait lire ses propos.
J'avais 25 ans, je sortais d'école. Je savais même pas ce que c'était qu'une entreprise. J'avais jamais payé d'impôts puisque je finissais mes études. Je savais même pas ce que c'était que le fisc. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tester. Comme mes clients étaient à l'étranger, je me suis dit, bon, finalement, c'est top. Normalement, j'aurais pas à payer d'impôts en France. Quand j'ai été contactée par le fisc, j'ai compris qu'il y avait un problème. Ça concernait quelques dizaines de milliers d'euros et le fisc m'en a réclamé 3 fois plus avec les intérêts et les pénalités. Mais j'ai fait profil bas. Mais à culpa, ouais, j'ai été une fraudeuse fiscale, j'ai payé. C'est le truc dont je suis pas fière. Et rien que le fait d'en parler, ça me rappelle à quel point j'ai été naze.
Oui, on entend bien la honte de cette cliente qui s'est sentie bernée par la société qui lui a proposé ses montages. Cela dit, ça reste quand même un cas marginal.
Oui, parce que si France Offshore a pu prospérer pendant plusieurs années, c'est bien parce que des centaines de clients ont eu recours à ses services en toute connaissance de cause. Certains ont même accepté de faire des fausses factures pour envoyer de l'argent de leur société française vers leur société offshore. La justice estime à au moins 200 millions d'euros les sommes blanchies par France Offshore.
Une somme importante. Et du coup, cette enquête judiciaire, elle a créé une onde de choc pour les clients de France Offshore.
Oui, et notamment après une perquisition au sein de la société, l'étau judiciaire se resserre et un vent de panique souffle alors chez les clients de France Offshore qui tout d'un coup ne peuvent plus accéder à leur compte bancaire.
Mais comment ça ?
Je vous explique. Vous vous souvenez du prête-nom fourni clé en main par France Offshore ? Eh bien, tout l'édifice repose sur lui. Même s'il n'est pas le vrai bénéficiaire de la société offshore, c'est quand même lui qui s'occupe chaque année de fournir à la banque les documents de mise à jour de la société. Donc pour résumer, ces papiers à renouveler chaque année par le prête-nom, c'est un sésame indispensable pour pouvoir accéder au compte bancaire. Et le problème pour les fraudeurs, c'est qu'à partir du moment où les enquêteurs s'intéressent à France Offshore, les prête-noms disparaissent dans la nature.
Oui, donc plus de prête-noms, donc plus d'accès aux comptes bancaires. Et qu'est-ce qu'ils font alors, ces clients fraudeurs ?
Eh bien, ils se tournent vers le cabinet d'avocats qui produit ces fameux documents si précieux. En l'occurrence, le cabinet Mossack Fonseca.
Ah oui, le fameux cabinet panaméen dont les documents ont fuité dans les Panama Papers.
Exactement, et c'est comme ça qu'on a découvert des mails de clients français désespérés. Ils écrivent à Mossack Fonseca pour obtenir des documents à jour de leur société. Mais le cabinet panaméen a une procédure très rigide. Il n'obéit qu'au prête-nom. Pas question donc de répondre aux fraudeurs français. Écoutez l'incompréhension et même la colère de ce capitaine français de yacht qui bénéficiait jusqu'ici tranquillement de son argent offshore. Son échange de courriel avec Mossack Fonseca est lu par des journalistes.
Monsieur, je ne comprends pas du tout quel est le problème. Ça fait maintenant 2 mois qu'on échange, je suis le propriétaire de la société, vous l'avez constituée parce que je l'ai commandée via ce putain d'intermédiaire France Offshore. De quoi avez-vous encore besoin ? Il y en a marre maintenant. On travaille sur le marché des bateaux et il faut que ma société signe une vente. On attend votre réponse en urgence.
Cher monsieur, sachez que nous comprenons votre problème et votre frustration. Mais nous vous répétons que Mossack Fonseca ne peut pas court-circuiter l'autorité de l'administrateur et de l'actionnaire officiel de la société.
C'est totalement inacceptable. J'ai prouvé ma bonne foi. J'ai payé pour cette société depuis 2 ans. Je réclame ce que j'ai commandé. J'ai payé un prestataire pour faire le travail. Il a disparu. Donc maintenant, c'est à vous de faire le travail. Arrêtez de jouer à ce jeu avec moi.
Et pas content, ce fraudeur fiscal, on l'entend, alors que le vent du boulet se rapproche. Alors justement, arrêtons-nous à présent sur ces fraudeurs. Au cours de votre enquête, Abdelhak, vous avez pu en rencontrer. Ce sont des témoignages assez rares, étant donné évidemment leur situation assez délicate. Et ils vous ont raconté dans quelles circonstances ils ont fait appel à France Offshore.
Oui, Maxime, par exemple, il était cadre dans une multinationale. Il avait besoin de recycler des commissions occultes, clairement de l'argent sale. Et il raconte comment mettre en place son montage offshore a été pour lui un jeu d'enfant. Nous avons modifié sa voix.
Tout est organisé par France Offshore. Il faut juste signer des papiers d'autorisation pour agir au nom, à notre nom. Et je me retrouve avec une société qui est matriculée aux îles Vierges britanniques, avec une banque européenne, et puis une carte bleue qui marche partout, dans les distributeurs automatiques à travers le monde, et des solutions de paiement à travers le monde. Donc c'était tellement facile à mettre en place, que c'était cool de pas en profiter.
Tellement facile, dit ce fraudeur. Et lui alors, combien d'argent il a caché ?
Il affirme qu'il avait 200 000 euros sur son compte bancaire en Lettonie, jusqu'au jour où tout bascule, l'enquête judiciaire fait dérailler son mécano fiscal et Maxime perd l'accès à son compte bancaire. Et il tente alors par tous les moyens de récupérer l'argent.
C'est la panique. Ça sent pas bon et c'est pas facile de voir des fiscalistes dans ce contexte-là. Bonjour, je vais retrouver la main sur un compte bancaire, sur une société qui ne m'appartient pas officiellement, sur des papiers que je ne comprends pas, sur des montages que je ne comprends pas. Et ouais, c'est compliqué.
Et cette histoire compliquée, comment elle finit pour lui ?
Maxime a pris pas mal de risques parce que malgré l'enquête judiciaire, puis l'affaire des Panama Papers, il a quand même tenté jusqu'au bout de remettre la main sur son argent, sans résultat. Mais lui estime qu'il s'en est plutôt bien sorti parce que ni le fisc, ni la justice ne l'ont rattrapé, en tout cas pour le moment. Et du coup, il vit toujours dans l'angoisse.
Je pense que j'ai dû mettre 4 ans à pas dormir. C'est compliqué comme situation. Ouais, aujourd'hui, je préfère ne plus entendre parler de cette histoire. Et on se dit que, en essayant de vivre sans, ça va se diluer avec le temps. Mais c'est une épée de Damoclès qu'on a. Et à chaque titre sur des évasions fiscales ou ce genre de choses, ça rappelle... le danger, l'exposition qu'on a, quoi. Alors que, avec le recul, c'est une connerie sans nom. J'en ai pas profité tant que ça, parce que l'argent a été mobilisé sur un compte bancaire qui a servi pour des dépenses courantes minimes. J'ai pas acheté de yacht, j'ai pas acheté d'appartement à Courchevel, j'ai pas acheté de Porsche ou de Ferrari, quoi. Donc, mais j'aurais pu. Mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, quoi. Du coup, ouais, c'est une connerie. Ouais.
Oui, c'est un peu tempête sous un crâne de fraudeur. Voilà donc pour l'histoire de Maxime. Donc lui, pour le moment, a échappé à la justice. Mais c'est pas le cas de France Offshore, hein, la société dont il a été le client.
Oui, le patron de la société, Nadav Ben Soussan, a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Il n'a pas fait appel. Nous l'avons contacté, mais il n'a pas souhaité s'exprimer. Quant à l'autre acteur du dossier, la banque lettonne, elle a été condamnée en première instance à une amende de 80 millions d'euros. Elle a fait appel, comme d'autres protagonistes du dossier, et les faits seront jugés de nouveau en septembre prochain.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment des clients se sont lancés dans des montages offshore qui ont mal fini pour eux. Et en épluchant les millions de données des Panama Papers, Abdelhak El Idrissi, vous avez découvert d'autres histoires de clients français.
Oui, j'ai notamment trouvé la trace de plusieurs dizaines de clients qui, après être allés faire un tour sur Internet, ont tous eu recours à un cabinet luxembourgeois d'experts comptables, Abrode Fiduciaire, pour monter une société offshore.
Une société offshore, où ça ?
Principalement aux Seychelles, mais aussi aux îles Vierges britanniques, et en utilisant à chaque fois un prête-nom pour ne pas apparaître, mais en ayant accès au compte bancaire grâce à une procuration.
Oui, donc des techniques, on l'a bien compris, assez habituelles dans le monde de l'offshore, mais certains de ces clients que vous avez identifiés, Abdelhak, avaient un traitement un peu spécial.
Oui, parmi les nombreux clients de ce cabinet luxembourgeois que nous avons contactés, 5 d'entre eux nous ont décrit une pratique qui pourrait étonner. Ces témoins affirment avoir signé les documents de constitution de leur société et de leur compte bancaire offshore à Paris, dans des hôtels ou dans des bureaux loués pour l'occasion.
Et alors, en quoi c'est potentiellement problématique ?
Eh bien parce que s'il est avéré que ces clients étaient en situation de fraude, le fait pour le cabinet luxembourgeois de se déplacer pour proposer ces montages pourrait être considéré comme illégal. Dans d'autres affaires, certains intermédiaires ont déjà été poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale.
Et ce cabinet luxembourgeois que vous évoquez, qu'est-ce qu'il répond sur ce type de démarche ?
Eh bien, je l'ai sollicité, mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse.
Bon, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de montages légaux ou illégaux, il y a un point commun dans toutes ces histoires, c'est Internet.
Oui, l'immense majorité des clients à qui j'ai parlé m'ont expliqué que c'est par Internet qu'ils sont entrés en contact avec des services offshore. Les prestataires sont d'ailleurs prêts à payer des sommes importantes, jusqu'à 30 000 euros mensuels, pour remonter dans les premiers résultats de recherche Google.
Et dans cette jungle des sites Internet offshore, Abdelhak, eh bien, vous avez frappé à leur porte.
Oui, j'ai appelé un de ces numéros qui propose des services de défiscalisation, officiellement légaux. Je me suis fait passer pour un jeune développeur de site internet, résident en France avec des clients en France. Est-ce qu'il est possible pour moi de payer moins d'impôts via une société à l'étranger ? La réponse est claire, c'est non.
On peut vous constituer une société au Royaume-Uni, vous facturez vos clients depuis cette société au Royaume-Uni, mais vous, étant donné que vous êtes résident français et vous réalisez la prestation sur le territoire français, c'est pas de l'optimisation, c'est de la fraude, tout simplement. Dans votre cas, il n'y a concrètement aucune possibilité à part déménager.
Bon, effectivement, aucune ambiguïté dans la réponse. Si vous ne déménagez pas à Londres, c'est de la fraude fiscale. Où est le problème alors, Abdelhak ?
Le problème, c'est que quelques secondes plus tard, la même personne m'explique que finalement, si je souhaite malgré tout frauder, eh bien, il peut m'aider.
Si vous avez une société anglaise, vous facturez vos clients avec une société anglaise, ça passe très bien, il n'y a aucun problème. 90% des consultants qui sont dans votre cas, qui font appel à nous, décident de le faire effectivement de cette manière-là. Sauf que ça, c'est eux que ça regarde. Moi, je vous ai prévenu, je vous ai dit effectivement, si vous faites ça, vous n'êtes pas dans le cas de l'optimisation, vous êtes dans le cas de la fraude. Maintenant, si vous insistez, vous voulez la société, moi, je vous fais la société sans aucun problème avec le compte bancaire. Une constitution de société avec une ouverture de compte bancaire, on est sur 2 040 €.
Ah oui, donc pour 2 000 €, on vous propose un kit de fraude fiscale.
Oui, et ça ne s'arrête pas là, parce que sans que je demande quoi que ce soit, on m'explique même comment ne pas éveiller les soupçons du fisc français. Par exemple, on me dit qu'il ne faut pas facturer tous mes clients avec la société offshore, mais continuer à avoir des clients avec ma société française pour payer quand même des impôts en France et justifier ainsi de mon train de vie. Et à peine mon téléphone raccroché, je reçois un devis et un formulaire à remplir pour devenir client.
Ouais, finalement, dit comme ça, ça a l'air très simple et presque sans conséquence. Sauf que dans la réalité, évidemment, ça ne se passe pas comme ça.
Bien sûr, et ça, Didier Delmer le voit tous les jours. Cet expatrié à Londres propose des schémas d'optimisation fiscale en toute légalité, mais certains de ses concurrents ont, eux, moins de scrupules.
J'ai vu passer des dossiers entre les mains où il y avait des vies et des familles anéanties, des divorces, des pertes de maison, des gens à la rue. Il y a eu des prestataires qui ont répandu la misère humaine autour d'eux. Ça détruit des vies, tout simplement. Ça détruit des familles. Je connais une famille dont le père s'est suicidé avec tout ça. Les enfants, ils avaient moins de 10 ans. Voilà.
Bon, et face à tous ces escrocs sur Internet, Abdelhak, quels sont les moyens dont dispose la justice ?
La première difficulté, c'est que la plupart de ces sites sont gérés depuis l'étranger, ce qui complique les investigations, comme l'explique Thomas de Ricolfi, le patron de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales.
On a affaire face à des espèces de toiles d'araignées, hein, on compare ça au web, hein, avec des gros serveurs, des petits serveurs, et puis finalement des utilisateurs qui sont derrière leurs écrans d'ordinateur. Et c'est vraiment des réseaux auxquels on essaye de s'attaquer. Alors évidemment, là aussi, il est difficile de savoir quel impact on a, puisque c'est un maillage complètement, c'est mondial. Et donc on essaye de s'attaquer à des facilitateurs. De temps en temps, certains tombent, mais on pense qu'ils sont... Leur clientèle ou leurs modes opératoires sont repris par d'autres qui trouvent de nouvelles parades pour échapper aux poursuites.
Et je précise que selon nos informations, le parquet national financier a ouvert 3 enquêtes sur ce type de site internet.
Ouais, difficile de remonter systématiquement le fil de ces sites internet, on l'a bien compris. Et d'une manière plus générale, face à l'ampleur du phénomène, lutter contre la fraude fiscale, c'est un travail considérable.
Oui, et ceux qui sont en première ligne, ce sont les policiers, on l'a entendu, mais aussi les magistrats spécialisés du parquet national financier, créés justement en 2014 après l'affaire Cahuzac. 5 ans après, le combat est loin d'être gagné, explique celle qui dirige le parquet national financier, Eliane Houlette.
On s'attelle à lutter contre cette fraude, donc on a énormément recours, notamment à l'entraide pénale internationale. Nous obtenons des résultats, c'est absolument certain. Nous sommes très engagés et très déterminés. Je suis perplexe sur l'avenir, je ne peux pas vous dire qu'on arrivera... c'est un peu le tonneau des Danaïdes, et je crains que ça ne reste toujours comme ça. Mais c'est pas pour ça que notre volonté de lutter contre la fraude fiscale est moindre. On est tous très déterminés.
Et on entend la volonté d'Eliane Houlette à la tête du parquet national financier, mais aussi sa perplexité pour l'avenir. Qu'est-ce qui a été fait finalement pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale ?
Récemment, à l'automne dernier, une nouvelle loi contre la fraude a été votée avec un alourdissement des sanctions et la publication des noms des fraudeurs dans certains cas. Mais la grande inquiétude, c'est la question des moyens accordés à cette lutte. La Cour des comptes a d'ailleurs récemment pointé de grosses faiblesses. Entre 2012 et 2016, les effectifs du contrôle fiscal ont diminué de 12%. Des suppressions de postes qui continuent et qui inquiètent les agents des impôts.
Merci Abdelhak El Idrissi pour cette enquête réalisée avec le Consortium international des journalistes d'investigation. Une enquête que vous pouvez retrouver sur le site de France Inter. Vous pouvez également la commenter sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons vous faire découvrir la face cachée de l'un des hommes les plus riches du monde, le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Shelter, la mélodie et la voix planante du groupe Broken Bells, l'alliance entre le chanteur du groupe pop The Shins, l'américain James Mercer, et le producteur musical Brian Burton.
Secret d'info, Benoît Colombat, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Lionel Astruc. Vous publiez aux éditions Actes Sud une enquête sur la fondation Bill et Melinda Gates, l'art de la fausse générosité. Alors Bill Gates, évidemment, c'est le fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune personnelle est estimée à 90 milliards de dollars. Et derrière cet empire, il y a donc une fondation qui brasse également beaucoup d'argent.
Oui, la fondation Bill et Melinda Gates, elle a un budget annuel de 4,5-4,7 milliards de dollars. Donc effectivement, c'est assez considérable, mais c'est assez peu aussi à l'égard de ce que Microsoft, par exemple, détourne des impôts aux États-Unis, ne serait-ce que pour citer ce pays.
Alors, comment fonctionne cette fondation? Elle est lancée en 2000. Elle touche tous les domaines.
Oui, elle touche notamment la santé, l'agriculture, l'éducation. Officiellement, elle a dans ses objectifs le fait de lutter contre les inégalités. Et ce que montre le livre, c'est qu'en réalité, elle alimente davantage et elle consolide un système qui conduit aux inégalités.
Alors justement, c'est frappant ce que vous montrez dans le livre, c'est que derrière les bonnes intentions affichées, il y a, disons, une certaine façon de voir le monde. Dans l'agriculture, par exemple, c'est flagrant.
Oui, absolument. En fait, Bill Gates est obsédé par la technologie, ce qu'on comprend mieux lorsqu'on connaît son histoire. Et dans le domaine de l'agriculture, pour ne citer que ce secteur, il est absolument persuadé que les OGM vont sauver le monde. Mais là où ça pose encore plus problème, c'est que il cherche à imposer ses solutions via sa fondation. On peut avoir son opinion, on n'est pas obligé de l'imposer à la planète entière.
Et c'est ça que, à travers ses financements, la fondation Gates oriente finalement les politiques de recherche et de développement.
Oui, tout à fait. Et même, j'irai plus loin, c'est que elle intervient directement dans le secteur privé. Pour continuer sur cette question de l'agriculture, on sait que, par exemple, au Malawi, l'AGRA, qui est la filiale de la Fondation Bill et Melinda Gates sur l'agriculture en Afrique, va directement voir les agrodistributeurs pour les pousser à vendre des produits phytosanitaires qui eux-mêmes sont fabriqués par Monsanto. Et les retours sur les programmes de la Fondation Bill et Melinda Gates montrent que ces programmes arrivent à booster en fait les ventes de produits phytosanitaires, augmentation de 85% pour citer à nouveau cet exemple du Malawi. Or, près de 70% de ces produits arrivent de Monsanto. Donc on voit qu'il y a vraiment une forme de collusion et de conflit d'intérêts.
Vous citez un chiffre, la Fondation figure la cinquième place des plus gros bailleurs de fonds pour l'agriculture dans les pays en développement.
Ouais, absolument. Et moi, c'est ce que je trouve au fond de plus effrayant, c'est-à-dire que la Fondation a plus de pouvoir, en tout cas plus de budget que bien des États, et Bill Gates maîtrise l'art de transformer cette pseudo-générosité justement en pouvoir pour alimenter un système qui en fait le porte lui en haut de la pyramide.
Alors derrière la Fondation, il y a également un fonds d'investissement, un trust, dont les seuls administrateurs sont Bill Gates et son épouse.
Ouais, c'est une gestion qui est très opaque et c'est important ce que vous dites, ça peut paraître un tout petit peu technique, en réalité c'est vraiment simple. La Fondation est adossée à un trust, un fonds de dotation. Seuls les dividendes issus des investissements de ce trust sont par la suite donnés. Mais la question, c'est dans quoi investit ce trust ?
Justement, ce que vous avez découvert, c'est que ce trust, il n'investit pas toujours dans des activités très éthiques.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ce trust, il investit, j'allais dire, il alimente les fléaux contre lesquels prétend lutter en fait la Fondation. C'est là où il y a un vrai problème. Le trust, il investit dans l'industrie de l'armement, BAE Systèmes au Royaume-Uni. Il investit dans la malbouffe, McDonald's, Coca-Cola. Il investit dans les OGM, dans les industries d'extraction minière, les énergies fossiles, le pétrole. On est très loin quand même de l'intérêt général.
Alors, ce que vous dites également, c'est que la Fondation utilise ses dons pour aider les entreprises qui appartiennent à son fonds d'investissement. Donc là, on est en plein mélange des genres.
Absolument. En fait, il y a un conflit d'intérêts à grande échelle. Pour citer un exemple, Coca-Cola, en 2014, était à la fois dans le portefeuille du Trust et dans les programmes d'action de la Fondation. Et donc, la Fondation incitait des communautés de pays du Sud, et notamment au Kenya, à devenir filiale de Coca-Cola ou à produire certains fruits, comme les fruits de la passion, par exemple, pour approvisionner Coca-Cola. Donc, ce que donne la Fondation d'un côté, elle le reprend de l'autre.
En fait, vous le racontez, Bill Gates prolonge une longue tradition, celle des riches industriels américains qui prônent moins d'État mais plus de pouvoir aux entreprises à travers leurs actions de charité. C'est bien ça.
Bill Gates contourne l'État, s'achète du pouvoir. Et effectivement, faire cette comparaison avec les Carnegie, Rockefeller, etc., qui faisaient déjà ça dans les années 50, c'est intéressant parce qu'il y a une longue histoire de ce philanthrocapitalisme. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus cet esprit critique, en fait, à l'égard des fondations. Alors qu'à l'époque, les Carnegie, les Rockefeller, ils étaient sans cesse brocardés dans la presse, critiqués. Et puis, il y avait tout un humour qui se développait pour dire « Attendez, on n'est quand même pas dupes ». Alors qu'aujourd'hui, faites le test autour de vous, parlez de la fondation Bill et Melinda Gates. La plupart des gens pensent que Bill Gates est un champion de la générosité.
Ce que vous rappelez également dans votre livre, ce sont les raisons pour lesquelles Bill Gates, selon vous, a besoin à un moment de redorer finalement son blason à travers sa fondation. En fait, c'est parce qu'il a été épinglé dans ses affaires par la justice américaine.
Par la justice, l'État américain lui-même. C'est-à-dire que même dans un système aux États-Unis où une certaine forme de capitalisme est quand même encouragée, lui, il est très au-delà. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec ce procès qui effectivement a eu lieu à la fin des années 90 et qui a déclenché son envie d'inverser son image et de devenir un grand généreux, c'est que ceux qui ont enquêté pour la justice américaine, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans les pratiques d'affaires de Bill Gates ? C'est que Bill Gates ne se contente pas de prendre des parts de marché à travers Microsoft et son activité économique. Il ne se contente pas de doubler ses partenaires, Il cherche ensuite économiquement à les écraser, à les tuer.
Finalement, Bill Gates a échappé de peu au démantèlement de son entreprise. En 2002, l'entreprise a été jugée coupable, mais elle a échappé au démantèlement.
Oui, et du coup, ce système de monopole et d'abus de position dominante a continué et fait que encore aujourd'hui, vous avez un monopole sur les systèmes d'exploitation qui est vraiment incroyable et assez énorme. Son objectif, c'est de faire marcher un système économique dans lequel les multinationales sont reines. Il n'y a pas de duperie ou de malice. Il y croit vraiment et je crois qu'il pense bien faire, mais c'est très dangereux à mon avis.
Merci Lionel Astruc. Je rappelle le titre de votre livre, L'art de la fausse générosité, la Fondation Bill et Melinda Gates aux éditions Actes Sud. C'est la fin de Secrets d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert. Merci à Patrick Henry et à Paul Percheron à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou, CEO de Mon Amour. La cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.